Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Analyse F1, c'est Julien et j'ai le plaisir une nouvelle fois de vous parler de ce fantastique sport qu'est la F1. Aujourd'hui, avant de revenir sur le Grand Prix de Monaco 2016, le Grand Prix de Monaco, tout d'abord, c'est quand même un grand lieu du sport automobile en général, rempli d'histoire, rempli de prestige, rempli de paillettes, rempli de tout. C'est le Grand Prix le plus vu, je crois, de la saison à la télévision. C'est le Grand Prix où il faut être, où il faut se montrer et où il fait bon d'y gagner parce que c'est une sorte de juge de paix, on peut le dire, comme le sont d'autres Grands Prix comme Spa par exemple ou d'autres. Voilà, avant de revenir sur ce Grand Prix, j'aimerais revenir sur les 500 miles d'Indianapolis qui se sont courus le même jour, un peu plus tard que le Grand Prix de Monaco d'ailleurs, quelques heures plus tard, et donc un pilote a gagné ses 500 miles. Alors ça c'est logique, il y a toujours un pilote qui gagne une course, j'ai pas inventé l'eau chaude, ni l'eau froide ni l'eau tiède, n'importe. Mais ce pilote n'est autre que un ancien pilote de F1, enfin un ancien. Il pourrait y revenir puisqu'il s'agit d'Alexander Rossi. Et oui, Alexander Rossi, le pilote américain qui gagne chez lui aux États-Unis ses 500 miles d'Indianapolis. Et ça a fait un grand coup de tonnerre parce qu'il est rookie là-bas. C'est un pilote débutant en IndyCar. Et remporter la course la plus prestigieuse de l'IndyCar et une des courses les plus prestigieuses du monde du sport auto. Il y en a beaucoup qui considèrent qu'il y a trois courses importantes, le Grand Prix de Monaco en F1, les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans. Certains en ont gagné deux, Montoya par exemple a remporté à la fois le Grand Prix de Monaco et les 500 miles. D'autres aussi, Graham Hill je crois, de mémoire, et ça doit être tout, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est tout, en tout cas. C'est vraiment très prestigieux. Et comme il l'a dit lui-même, Alexander Rossi, ça va changer ma vie. Ça reste un jeune pilote qui avait émis le souhait au début de la saison de vouloir revenir en F1 suite à cette saison d'IndyCar, que ça lui ouvre des portes, qu'il n'abandonnait pas ce projet initial de la Formule 1. Là, avec cette victoire à Indianapolis, je pense que ça va lui ouvrir des portes. Mais est-ce que lui sera encore disposé à revenir en Europe? Ça, c'est une autre question. Il a pu également, ça peut lui faire changer d'avis. On verra. En tout cas, je lui souhaite vraiment le meilleur. J'étais vraiment très content de le voir parce que l'année dernière, avec ses. Je crois qu'il a fait que 5 grands prix, environ en tout cas 5 grands prix en F1. Et il avait déjà fait des très bonnes performances. Il s'était bien montré aux yeux de Manor. D'ailleurs. Il est resté, c'est le seul des trois pilotes engagés l'année dernière par Manor en Grand Prix, qui est resté, on va dire, dans le giron Manor en F1, puisqu'il est pilote réserviste de Manor, et qui sait, avec peut-être les déboires financiers de Rio Arianto, peut-être qu'Alexander Rossi pourrait recourir en F1 cette saison, on ne sait pas, il faudrait voir encore, ce n'est que spéculation, donc ce n'est pas vraiment utile. Félicitations à lui, moi j'étais plutôt très content de le voir gagner ses 500 miles, en plus dans un suspense, un bon suspense, parce que il est avec une stratégie décalée, une stratégie d'économie d'essence, et nul doute que, je pense, son expérience en F1 d'économiser la machinerie, plus l'expérience du début de saison en IndyCar, l'ont aidé, je pense, à gérer cette fin de course, où il a tenu plus de 30 tours cette essence, parce que je rappelle qu'il y a les ravitaillements essence en IndyCar. Et donc, les deux derniers tours étaient très durs, puisqu'il était au ralenti. Enfin, quand je dis au ralenti à Indianapolis, il était peut-être à 200, 250, mais c'est au ralenti. Et donc, il a pu finir la course quand même avant la panne d'essence. C'était un gros suspense, c'était beau à voir. Voilà, c'était juste pour vous partager un petit peu ça. Maintenant, parlons de ce qui vous intéresse le plus, je pense, le Grand Prix de Monaco 2016. Et oui, et qui m'a intéressé vraiment beaucoup, beaucoup, parce qu'on a vu vraiment une course dantesque. Dantesque parce que Monaco plus pluie déjà, forcément, moi j'aime bien les Grands Prix sous la pluie généralement. Monaco, j'adore. Donc le mix des deux. Je ne peux qu'être en émoi devant un tel grand prix et à l'idée d'un tel grand prix. Je trépignais d'impatience quand il y avait juste la grille de départ. Là, je trépignais d'impatience à l'idée de voir le départ. Bon, bref. Et donc, le Grand Prix ne m'a pas déçu. On a vu un Grand Prix quand même avec pas mal d'actions, et notamment qui s'est achevé par une victoire d'Hamilton, et oui, sa première victoire depuis Austin 2015, enfin une victoire cette saison pour le pilote britannique, et qui n'est plus qu'à 24 points de Nico Rosberg. Et oui, il a fait une grosse remontée grâce à ce Grand Prix, et quel meilleur endroit pour le faire que le Grand Prix de Monaco, le Grand Prix le plus prestigieux. Et on le voyait vraiment à la fois soulagé, très content. Bref, un Grand Prix libérateur pour Hamilton qui lance véritablement sa saison. Et vraiment l'a lancé à ce moment-là, au sixième Grand Prix de la saison. Il en reste encore beaucoup, mais l'a lancé là. Il le fallait, je le disais depuis quelques semaines dans les derniers podcasts. Je le répétais à chaque fois dans les ceux qu'il ne fallait pas manquer. Il fallait absolument qu'Hamilton reprenne de gros points sur Rosberg, mais d'un coup, hein, quasiment d'un coup. Parce qu'après, ce serait très compliqué de remonter. Il l'a fait. Il est à moins d'une victoire de Rosberg, donc à portée de tir de Nico Rosberg, qui maintenant peut ressentir une certaine forme de pression, même si son avance est encore relativement confortable. Mais ce n'est plus l'avance de plus de 40 points, hein, ça c'est clair. Bref, le triple champion du monde a frappé, il a rendu une copie quasi parfaite ce dimanche-là, dans des conditions changeantes, et ça il faut le noter, et il faut le noter encore une fois, parce que Lewis Hamilton, et oui, si vous suivez bien son parcours depuis le début de sa carrière en 2007, sur les conditions mouillées, actuellement sur le plateau de F1, il y a très peu de pilotes qui peuvent être aussi bons que lui. Très très peu, hein. Il fait partie du top 3 facile, hein. Facile, parce que son taux de victoire quand il y a une piste mouillée est impressionnant, vraiment, hein, Lewis Hamilton. S'il y a vraiment quelque chose qu'on peut noter, c'est ça. Je crois que la dernière victoire en date d'Hamilton sur le mouillé, c'était un Grand Prix de Grande-Bretagne, il me semble. Je ne sais plus quelle année, je me demande si c'était pas l'année dernière ou il y a 2 ans. Je ne sais plus, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup où Hamilton a vraiment frappé sur des pistes comme ça, des conditions changeantes, avec des stratégies bien vues, une belle vista de la course de la part de son écurie et de lui-même. Parce que si le pilote ne dit pas je peux rester en piste ou je ne peux pas, eh bien, ou je ressens que ça sèche, ou je ressens que ça ne se ressèche pas, que ça ne sèche pas, eh bien, l'écurie ne va pas pouvoir faire les bons appels, la bonne stratégie, hein. C'est vraiment un travail d'équipe et un gros travail du pilote, hein, dans ce cas-là, hein, parce que, évidemment, les conditions pluvieuses demandent une dextérité tout autre. Également, ben, une part de chance, il en faut, mais voilà. Et en tout cas, c'est une marque des plus grands, des plus grands champions. Souvenez-vous, Ayrton Senna était réputé sous la pluie, Michael Schumacher était réputé sous la pluie également, donc voilà, et Lewis Hamilton l'est, hein, depuis une dizaine d'années, c'est vrai que dans ces conditions, on l'attend de pied ferme à chaque fois, hein. Ça c'est clair. Alors après, certes, vous allez me dire, ouais, t'es bien gentil, il a fait une course quasi parfaite, mais si il n'y avait pas eu l'erreur à l'arrêt au stand de Ricciardo, ça aurait pas été la même. Certes, il a bénéficié de cette grosse erreur de Red Bull, je reviendrai évidemment sur cette erreur, parce que je vais consacrer une grosse part de ce podcast au podium, et c'est bien normal et logique, je pense, vu que c'est quand même ce qui a fait le plus gros intérêt de la course. Mais ça n'enlève rien à la grosse course d'Hamilton, à sa très belle course, même s'il n'avait pas gagné la course. Je pense que voilà, on n'aurait rien enlevé quand même à sa performance. Il aura fait une belle course. Mais là, il a vraiment fait une très belle course en la gagnant, celle-ci, et ben voilà, c'est pas mal. Alors ça a été au prix d'une stratégie osée de la part d'Hamilton, mais envisageable à Monaco. Mais d'un autre côté, c'est assez paradoxal ce que je vais dire, mais c'est envisageable à Monaco, mais sans vraiment l'être non plus. Alors bon, je vais expliquer la stratégie tout d'abord. Au lieu de passer en fait des pneus pluie aux intermédiaires, comme beaucoup l'ont fait pour le premier arrêt au stand, la majorité même, je crois qu'il n'y a que 2-3 pilotes qui ne l'ont pas fait, eh bien Lewis Hamilton a gardé ses pneus pluie en misant sur le fait que la piste va s'assécher assez rapidement, et du coup il pourra passer directement des pneus pluie aux pneus secs. Alors, c'est envisageable parce que même en étant beaucoup plus lent que les autres pilotes qui sont derrière lui, eh bien on est à Monaco, donc il y a moyen de conserver sa position, même avec un gros différentiel de vitesse et de rythme. On l'a vu à de nombreuses reprises, à de nombreuses années, ça fait partie de l'histoire de Monaco et de la caractéristique principale du circuit, le circuit en ville, dans les rues, assez étroit, au milieu des rails, voilà. Et donc voilà, ça c'est le côté envisageable et le côté moins envisageable du coup, le côté risqué, c'est que sur une piste séchante avec des pneus pluie qui commencent à être bien usés, eh bien une erreur peut être si vite arrivée d'une part par cette usure même des pneus et d'autre part parce que la piste est inégale, il y a des endroits où c'est plus sec que d'autres. Où c'est plus mouillé que d'autres, il y a des flaques d'eau qu'il faut éviter, c'est vraiment des conditions très très compliquées et il faut vraiment bien maîtriser. Et là, c'est vraiment la preuve. Hamilton n'a fait aucune erreur dans ces conditions, il a très bien géré et voilà, c'est pour ça qu'il a fait une grande course également, hein, parce que fallait oser cette stratégie, c'était la stratégie payante, quoi. C'était le poker gagnant, le tapis gagnant. Et il a bien fait de la faire, hein, parce qu'il a su la mener de main de maître, son écurie aussi. Donc, très belle victoire de Mercedes et de Lewis Hamilton. Mais voilà, cette victoire de Lewis Hamilton a laissé un goût amer à un autre pilote, un pilote australien qui est arrivé en deuxième position. Et qui n'est autre que Daniel Ricciardo. Je vais parler un peu de sa déroute durant ce Grand Prix. Alors, il était parti en pole, donc forcément, les statistiques parlaient pour lui. Un pilote qui part en pole à Monaco, même dans des conditions pluvieuses, et ben normalement, c'est pour lui. Mais justement, dans des conditions pluvieuses, même s'il n'a pas les jets d'eau devant lui, ça reste des conditions compliquées, avec des changements de stratégie en course, une piste qui évolue. Et donc, la victoire n'est pas forcément assurée. Hein. Franchement, au milieu des rails, faut y aller, faut pas faire d'erreur. Mais il a quand même fini deuxième, ce qui est un très bon résultat en soi pour Ricciardo, hein, qui repart de bon pied, qui est troisième au championnat du monde, qui, si Red Bull s'avère vraiment forte sur tout type de tracé, avec cette nouvelle unité de puissance Renault qui semble vraiment porter ses fruits, enfin, on aurait envie de dire, mais tant mieux, ça apporte un milieu compétitif plus fourni en Formule 1. Eh bien, il pourrait poser des petits soucis aux deux pilotes Mercedes et jouer un petit peu un rôle d'arbitre et d'outsider, comme en 2014, il avait été un outsider, mais bon, très loin des Mercedes, mais là, ça pourrait être un peu plus proche, on va dire. Il faut pas oublier les Ferrari également, mais bon, les Mercedes ont évidemment ce petit avantage qu'elles ont toujours, hein, évidemment. Donc, Ricciardo, il était remonté, en fait, à portée d'Hamilton, pour parler de la stratégie. Alors, Ricciardo, il faisait partie des pilotes en pneus intermédiaires qui avaient fait le choix de faire un premier arrêt au stand en passant des pneus pluie aux pneus intermédiaires quand la piste commençait à s'assécher. La majorité des pilotes, je crois qu'il y a vraiment que 2-3. Il y a Hamilton, Wehrlein qui ont choisi de rester en pluie et d'ensuite chausser des slicks directs. Et peut-être un autre, mais c'était vraiment au fond du tableau, à part Hamilton devant. Donc voilà. Ricciardo était en intermédiaire, il remonte sur Hamilton qui était en pneus plus usés. Et c'est alors, Hamilton tient bien la position, Ricciardo lui met une bonne pression, d'ailleurs c'était beau, hein, les différents duels entre Ricciardo et Hamilton dans la course, à ça je m'en suis délecté, c'était très beau, avec un pilotage agressif de la part de Ricciardo, mais agressif intelligemment, et un pilotage défensif de la part d'Hamilton, très serein, très posé, et je crois qu'il a fait qu'une erreur à la chicane à un moment, qui a essayé d'exploiter Ricciardo, mais c'était pas assez incisif, hein. À Monaco, vraiment, quand on veut passer, il faut pas faire un dépassement comme sur les autres Grands Prix. C'est-à-dire, je vais me frayer un chemin, et puis après, on va voir si j'ai assez de vitesse pour passer. Non, à Monaco, c'est tu passes, et ensuite l'autre doit voir que t'as passé, et être obligé de te laisser la place. Mais ça doit pas être, tu essayes de passer, et l'autre te laisse la place. Non, non, non. À Monaco, ça doit être clair, net et sans bavure. Sinon, ça finit dans le mur ou dans une autre monoplace. Donc, c'est là aussi, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour dépasser à Monaco. Ricciardo n'a pas réussi, mais bon, on peut pas lui en vouloir, hein, de ne pas avoir passé à Monaco. Et beaucoup avant lui n'y sont pas arrivés, c'est normal. On n'est pas censé pouvoir vraiment dépasser sur ce circuit. Et voilà, ensuite la stratégie. Donc Hamilton, il lance sa stratégie au bout d'un moment en s'arrêtant au tour 31 pour chausser ses pneus, donc slick, les pneus ultra soft, ultra tendres, les pneus à bandes violettes, qui ont été d'ailleurs introduits à l'occasion de ce Grand Prix de Monaco. Donc logiquement, Ricciardo s'aligne au tour 32 sur cette stratégie en chaussant des pneus slick. Seulement, dans le stand Red Bull, il y a eu un imbroglio le plus total. On a hésité sur le train à choisir, finalement, d'abord ultra soft, ensuite on a dit un non super soft. Ouais, seulement les super tendres, ils étaient au fond du garage et fallait aller les chercher, ils n'étaient pas à portée de main des mécanos. Et du coup, ce temps qu'il a fallu pour aller les chercher, eh bien ça a coûté entre 10 et 15 secondes facile à Ricciardo. Et donc, ben voilà, c'est une hésitation qui a fait perdre la première place au pilote australien. Et voilà, et qui a coûté la victoire à Ricciardo quelque part. En plus, cette hésitation de la part de Red Bull était quelque peu inutile. Parce que finalement, les deux petits trains de pneus, les deux types de pneus, super soft, ultra soft, ont tenu jusqu'à la fin sans problème. Donc, il n'y avait pas vraiment à hésiter. Et voilà, je vais revenir un peu sur les raisons qui ont fait que ben il y a eu ça dans le stand Red Bull. Hein. Une erreur comme ça, on est habitué à les voir chez Toro Rosso plutôt. Et j'y reviens dessus. Ben, j'enfonce le couteau dans la plaie. Je tire sur l'ambulance. Appelez ça comme vous voulez, mais il faut citer des exemples. Donc voilà, Toro Rosso, c'est le meilleur exemple. C'est l'exemple le plus proche de Red Bull. Donc voilà, faire des erreurs dignes de l'écurie sœur, de l'écurie fille. Et non, non merci. Red Bull, il ne faut plus reproduire ça. Déjà parce qu'après, les relations avec le pilote peuvent se tendre, mais aussi surtout parce qu'il y a des points au championnat constructeur et au championnat pilote, hein, tout simplement, et des victoires à aller chercher. Et oui, évidemment, on les veut, ces victoires, quand on est Red Bull et qu'on veut redevenir le top team que c'était il y a quelques années. Et c'était il n'y a pas longtemps, c'était en 2013. Alors, la stratégie d'Hamilton, tout d'abord. Qui a choisi de passer en pneu slick, elle a pu dérouter Red Bull. Red Bull s'y attendait parce que Hamilton était resté en pneu pluie, c'était pas pour passer en intermédiaire quand la pluie allait être totale, quand la piste allait être totalement sèche. Mais il y avait une inconnue, c'était quand est-ce qu'Hamilton allait s'arrêter. Et oui, donc il s'arrêtait au tour 31 et ensuite ça a obligé Red Bull à adapter une stratégie seulement. Il y a deux choses qu'il faut savoir. La première, c'est que Monaco, c'est le circuit le plus court de la saison. Le plus court en distance et en temps assez court aussi parce qu'il y a des tours en moins d'une minute 20. Moins d'une minute 20 en course, c'est assez court. Hein. En F1, il y a peut-être que le Grand Prix du Brésil également où on a une minute 20. Le Grand Prix d'Autriche également. Ouais, on doit avoir une minute, une minute 10, une minute 20. Enfin bref, il y en a très peu qui sont aussi courts en termes de durée. Et donc, il faut se dépêcher. Et en plus, il y a une deuxième contrainte au niveau de l'adaptation de la stratégie, c'est que le muret des stands à Monaco, il n'est pas situé comme sur les autres Grands Prix, parce qu'on a une voie des stands assez étroite, et non, le muret des stands est au premier étage du garage, en fait. Au premier étage du garage, et donc la communication n'est pas forcément aussi simple. Ceux qui sont sur le muret ne voient pas tout ce qui se passe en bas, donc ils peuvent moins superviser, etc. Donc forcément, ça prend encore plus de temps, et si en plus on hésite sur la stratégie. Là, il y a une claire hésitation. Red Bull l'a dit, ils ont hésité entre deux trains de pneus. Ensuite, ils ont choisi un train de pneus, mais c'était trop tard. Il fallait pas hésiter, il fallait prendre une décision claire, nette et précise. Autre raison, c'est que il y a également ce qu'on appelle la salle des stratèges, qui est une salle spéciale qui est située à l'usine de Red Bull, et que chacune des écuries ont, je pense, à part peut-être les plus petites écuries et encore. En gros, c'est une salle où il y a plein de stratèges avec des super ordinateurs qui recueillent toutes les données en piste à la seconde, aux millisecondes, quoi. Et c'est plein de gigaoctets à la seconde qui circulent. Enfin, peut-être pas à la seconde, quoique. Il y a des chiffres impressionnants à ce niveau-là. Hein. Vous serez surpris, je pense, de voir à quel point ça télécharge, hein, des données en piste. Et donc, selon les données recueillies, les ordinateurs calculent les stratégies les meilleures. Seulement, il y a des conditions difficiles, donc les ordinateurs deviennent un peu moins utiles parce que dans des conditions que ben, l'ordinateur peut pas trop prévoir, l'assèchement de la piste, le fait qu'il y ait certains endroits plus secs que d'autres, etc., ça on peut pas vraiment prévoir. Donc si on attend une stratégie de la part de ces stratèges, ça sera pas forcément la stratégie la plus optimale, alors que sur temps sec, on sait qu'ils vont fournir une stratégie optimale. Ils ont même des stratégies avant course où ils savent à peu près comment ça va se passer. Et après, il y a les circonstances de course qui font que ça va modifier en temps réel ce qui est prévu à la base. Bref, tout ça a joué, et tout ça, évidemment, eh bien, ça a provoqué cette erreur de Red Bull, qui n'est pas excusable, hein. J'essaye seulement de l'expliquer, mais qui n'est nullement excusable, hein. Franchement, c'est scandaleux. Mais si on veut expliquer cette erreur, eh bien, voici quelques pistes de réponse, les pistes officielles et les pistes que j'essaie d'analyser ici. Bref, l'arrêt dure une éternité pour Ricciardo, il ressort juste derrière Hamilton. juste derrière. Alors, c'est assez surprenant de voir ça parce que on pourrait se dire, ouais, Hamilton, il est ressorti 10 secondes devant. Ben non, il ressort juste devant Ricciardo, c'était serré. Et pourquoi? Parce que Hamilton n'avait pas fait un bon tour de sortie en plus, ce qui veut dire que voilà, l'arrêt de Ricciardo était vraiment très mauvais, hein, ça a vraiment coûté la victoire. Hamilton, pas très bon tour de sortie, il l'a avoué lui-même, d'ailleurs il a dit selon ses propres mots qu'il ne savait pas du tout où il pouvait attaquer au début avec ses pneus slick, parce que franchement ça change hein, quand on passe des pneus pluie aux pneus slick, comme ça, neuf en plus, qu'il faut les faire chauffer, il a choisi la prudence du coup plutôt, mais c'est peut-être le seul mauvais tour qu'il a fait dans tout le Grand Prix, hein. C'est ce tour de sortie qui était vraiment très lent de la part d'Hamilton, mais voilà, malgré ça il a gagné. Parce que tout le reste était, ben, c'était un coup de maître hein, de faire tout ça. C'était vraiment, vraiment, vraiment un coup de maître. Alors, la stratégie de Ricciardo, j'ai vu certains d'entre vous qui cherchaient aussi à critiquer la stratégie initiale, c'est-à-dire au lieu de faire comme Hamilton, c'est-à-dire de faire pluie, puis slick, de faire pluie, puis inter, puis slick. Moi, selon moi, c'est pas critiquable d'avoir fait ça de la part de Red Bull et de Ricciardo, parce que c'est la stratégie la plus sécuritaire, on va dire, la plus sûre qu'ont adopté la majorité des pilotes dans le Grand Prix. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette stratégie. Hein. Je vois vraiment pas ce qu'on peut reprocher au fait que Ricciardo ait chaussé des pneus intermédiaires. C'est juste, à mon avis, c'est plutôt la stratégie de Mercedes qui est un coup de maître, et d'Hamilton. C'est un nouveau coup de maître de la part de cette équipe et de ce pilote. Donc voilà, on ne peut pas reprocher cette stratégie à Red Bull, il y a juste l'arrêt au stand à reprocher. Tout simplement, Ricciardo, sinon, il a fait sa course. Hein, il se retrouve à un moment avec 13 secondes d'avance quand même au début du Grand Prix, parce qu'il y avait Rosberg deuxième qui était très lent, qui finalement a laissé passer Hamilton, j'y reviendrai. Là, l'écart s'est stabilisé, même Hamilton a commencé un petit peu à revenir. Puis ensuite, il y a la stratégie qui s'est mise en place avec Hamilton qui passe en tête, vu que Ricciardo s'était arrêté pour chausser les intermédiaires. Et voilà, malgré sa très bonne course, il est arrivé deuxième, Ricciardo, et encore une fois, on a vu la frustration de Ricciardo en piste. On a vu quand il a essayé de passer Hamilton et qu'ensuite il n'était pas content de la manœuvre défensive d'Hamilton. Bon, voilà, il faut qu'il garde son sang-froid, je pense, Ricciardo. Et surtout après course, c'est la première fois qu'on voit un Ricciardo qui ne sourit pas. Ou peut-être au Grand Prix d'Espagne... Le dernier Grand Prix, au Grand Prix d'Espagne, quand il a été interviewé, mais c'était pas pareil encore, c'était différent parce qu'on le voyait pas sur le podium. Là, c'est la première fois où on voit un Ricciardo sur le podium qui ne sourit pas. Lui qui est l'image même du sourire en F1, c'était assez déroutant de le voir comme ça, très déroutant. Et ça faisait penser à une similarité avec Hamilton en 2015. Et oui, pareil, Hamilton deuxième en 2015, une stratégie foireuse, encore une fois à Monaco. Et encore une fois, je pense que il y a certaines raisons voilà, le circuit est assez court, donc des fois il faut choisir une stratégie assez rapidement et peut-être trop rapidement. Et voilà, il y a des caractéristiques du tracé qui font qu'on peut faire des erreurs stratégiques plus que sur d'autres tracés peut-être. À mon avis, ça joue. Et du coup, voilà, sur les deux coups en tout cas, Hamilton Monaco 2015 et Ricciardo Monaco 2016. À chaque fois, l'écurie enlève la victoire au pilote, quelque part, ce qui n'enlève rien à chaque fois aux victoires des autres pilotes, hein, ça c'est clair. Il faut toujours remettre les choses dans le contexte et ne jamais dénigrer la victoire des autres, parce qu'on peut pas dire que Rosberg il ait fait une mauvaise course l'année dernière, on peut pas dire que Hamilton ait fait une mauvaise course cette année, bien au contraire, franchement. Après ce que je vous ai dit, si vous en doutiez, eh bien j'espère que vous n'en doutez plus. Enfin voilà, et du coup, bon, ben Ricciardo... On voit que sa frustration, encore une fois, c'est définitivement, là, j'ai la confirmation, la frustration de Ricciardo, c'est sa plus grande ennemie dans sa carrière de F1. On l'a vu l'année dernière, en deuxième partie de saison, où il était frustré que sa Red Bull soit pas aussi performante qu'il le voudrait, et du coup, il s'est fait battre par Kvyat sur l'ensemble de la saison. Et en Espagne, on a vu qu'il était frustré et qu'il cherchait peut-être pas forcément les bonnes raisons. Il disait que c'était la faute de l'écurie, forcément. Moi, j'étais pas complètement d'accord. Si vous ne savez pas pourquoi, allez écouter le « Ce qu'il ne fallait pas manquer en Espagne ». Et là, on peut pas lui en... ça c'est clair, on peut pas lui en vouloir, mais il faut qu'il puisse ravaler sa frustration ensuite, avec le recul, pour pouvoir piloter comme il sait le faire. Parce que vraiment, ça risque de lui coûter cher, cette frustration, s'il reste frustré comme ça. Attention, Ricciardo, attention. C'est un très bon pilote, qui a le potentiel d'être un champion du monde, qui a la vitesse, qui a le talent pour les dépassements, etc., etc. Il a quasi tout, mais cette frustration, attention, attention, vraiment. Voilà, j'en ai fini avec les deux premiers. Maintenant, il faut parler vraiment du reste, on va dire, assez vite fait, parce que le podcast commence déjà à durer, mais franchement, il fallait vraiment reparler des deux premiers, parce que ils nous ont offert un beau spectacle, il faut le dire. Et on a vu de l'action, on a vu du drama, on a vu un peu tout. C'est sympa. Et donc, qui complète ce podium? Eh bien, à votre avis, une Ferrari? Non, une autre Red Bull non plus. C'est Sergio Pérez. Et oui, encore un podium pour le pilote mexicain, qui finalement, définitivement, il en aligne chaque année des podiums. Chaque année, avec une monoplace à chaque fois, qui ne devrait vraiment pas en avoir en temps normal. La Force India, c'est pas la troisième monoplace du plateau. Hein. Loin de là, hein. loin de là. Donc c'est assez exceptionnel. Avec Sauber, il en avait eu plusieurs. Bon, avec McLaren, aucun. On sait, c'est son année noire. Dans sa carrière, à cause du fait qu'il a été viré comme un malpropre, et oui, McLaren, encore une fois, qui vire comme un malpropre un pilote, bon, ça commence à être normal. Bref, j'en ai déjà beaucoup parlé au cours d'autres podcasts. Bref, et ensuite, il a rebondi chez Force India, et à chaque fois, chaque année, il aligne des podiums, tout simplement. Et à mon avis, il faut bien comprendre que son coéquipier n'en aligne aucun, même si Hülkenberg est un très bon pilote également. Vraiment un très bon pilote, mais Hülkenberg dans sa carrière n'a aucun podium. Eh oui. Donc Sergio Pérez, vraiment, il se positionne comme un prétendant à un baquet de top team. Et d'ailleurs, il le dit, il dit qu'il se sent prêt à être dans un top team, qu'il est au meilleur de son niveau actuellement. Et je le crois, moi, je le crois. Ce n'est pas de la prétention, il est réaliste. Il sait qu'à Monaco, c'est important de percer, c'est important de se montrer. Il a raison d'avoir cette communication, je pense. C'est pas du fait d'être prétentieux, d'autant plus que, suite à sa course, il ne louait pas ses propres qualités, mais plus sa stratégie de son écurie qui a été parfaite. Et oui, c'est vraiment son écurie. Il a remercié son écurie de lui avoir fourni une stratégie qui lui permette d'être sur le podium et une voiture performante. Et oui, parce que je vais vous la relater, cette stratégie. Pérez a été en fait le premier du top 7 à s'arrêter pour des pneus slick, enfin, hors Hamilton, mais dans la stratégie normale, c'est-à-dire de ceux qui ont fait premier arrêt pneu inter, deuxième arrêt pneu slick, eh bien c'est le premier du top 7 à avoir chaussé des pneus slick. Et donc c'était la bonne stratégie parce que devant il y avait un petit bouchon, je crois qu'il était causé par Rosberg, et donc anticiper l'arrêt c'était très bon. Ensuite il a fait sûrement aussi des bons tours de sortie, s'il le fallait de toute façon, et donc en faisant ça, eh bien tout simplement, il a réussi à undercut tout le monde et à passer, je crois, de 7 ou 6 à 3e quand même. Hein. Donc, très bonne stratégie. Et ensuite, eh bien, il a su maintenir un bon rythme à Monaco. Il n'a pas fait d'erreur. Jamais Vettel, qui était 4e, hein, Vettel sur une Ferrari, jamais le pilote allemand n'a pu lui poser souci ou lui mettre une véritable pression. Non, il était toujours à 2-3 secondes. Hein. C'était vraiment très belle course de Pérez, encore une fois. Et bon, ben, moi, j'espère vraiment que il pourra avoir dans sa carrière une autre chance d'être dans un top team et dans une écurie qui peut jouer régulièrement des podiums. Mais bon, les places dans les baquets de top team sont très chères, comme je le dis à chaque fois, d'autant plus chères qu'on a un plateau très relevé avec des excellents pilotes dans les baquets de top team, donc c'est compliqué. Mais bon, on peut lui souhaiter, il lui reste encore quand même, je pense, pas mal d'années devant lui au pilote mexicain. Ensuite, ah oui, il faut parler évidemment des Sauber. Des Sauber, pourquoi? Parce qu'elles nous ont offert un spectacle digne du cirque. Le ridicule ne tue pas, mais devrait au moins, je pense, terminer la carrière des pilotes que sont Marcus Ericsson et Felipe Nasser, tout simplement. On a vu la différence entre ces pilotes-là, entre ce duo, et un autre duo qui est composé de Rosberg et d'Hamilton. Une différence entre des gros nullards et des grands pilotes que je respecte. Pourquoi? Parce que Ericsson, voilà, Nasser avait reçu l'ordre de laisser passer son coéquipier, même si c'était pour la 15e place, mais chaque place compte pour Sauber, et Ericsson était plus rapide derrière Nasser et pouvait peut-être aller dépasser d'autres pilotes. Et on avait bien dit en plus, s'il n'arrive pas à passer, eh bien il te le relaissera passer. Donc il n'y avait pas de souci. On se souvient que Toro Rosso, Red Bull l'avait fait l'année dernière en 2015. On se souvient surtout que lors de ce Grand Prix de Monaco 2016, Rosberg a laissé passer Hamilton. Je vais y revenir parce que la comparaison est parfaite entre ces deux actions qui sont passées durant le même Grand Prix. Et donc, Nasser refuse l'ordre de son écurie, ce qui est débile déjà. Et ensuite, autre chose débile, c'est que Ericsson décide de faire un dépassement kamikaze sur Nasser. Nasser, qui n'était pas disposé, même en voyant son coéquipier dépasser, à le laisser passer, et qui ferme la porte à la rascasse. Et oui, le dépassement n'était pas net, la défense non plus, bref, du ridicule de la part des deux pilotes qui ont très mal réagi et qui n'ont pas réfléchi. Sauber est une écurie en grosse difficulté financière. Les employés ont du mal à être payés en temps et en heure. On sait que les pièces qui sont détruites sur des monoplaces de F1, ça coûte de l'argent, ça coûte plus d'argent, ça coûte de la logistique et ça coûte du travail, des heures de travail à l'usine, des heures de travail pour les mécanos, des complications au niveau du championnat également et de la suite. Voilà, c'est ridicule et ils se sont tout simplement ruinés la course, hein, eux deux. Et ils n'ont pensé qu'à eux sans rien penser d'autre. Et en plus, ben, en pensant qu'à eux, ça leur a causé le contraire de ce qu'ils auraient voulu, c'est-à-dire finir la course déjà et finir comme il fallait, quoi, à la meilleure position possible. Donc, c'est ridicule, tout simplement ridicule de la part de ces deux pilotes. Et j'espère vraiment ne plus les revoir en F1 dans les années à venir. Certes, ils ont l'argent, et j'avais dit que c'était un gros facteur, souvenez-vous, lors de l'intersaison, mais j'avais aussi dit que j'avais de l'espoir concernant ces deux pilotes, parce qu'ils ont été, c'était les deux premiers à être confirmés dans des baquets de F1 l'année dernière, et je me disais, ben du coup, ils auront le temps de travailler ensemble, travailler et d'aider Sauber à réussir leur premier Grand Prix, au moins, ou à faire... Et tout simplement, Ericsson et Nasser à être plus performants, comme ils sont des pilotes très peu expérimentés, ben non, tout simplement, ils n'ont rien appris. Et faire ça à Monaco, c'est se ruiner toute chance pour les autres écuries. Les autres écuries n'auront pas envie de les prendre, ces pilotes, et c'est bien normal, et tant mieux. Là, ils en ont tout gagné. La différence avec Rosberg et Hamilton, c'est que Ericsson et Nasser, ils sont dans une petite écurie. Ils sont dans une autre dimension, Rosberg et Hamilton, dans une autre dimension financière, médiatique et sportive. Et Ericsson et Nasser, ils sont bien, bien cachés quand même chez Sauber. Il y a moins de pression et tout, mais ils ont agi n'importe comment. Alors que Rosberg et Hamilton, avec toute cette dimension qui peut prendre la tête et où ils pourraient avoir vraiment la grosse tête, et des fois on peut dire qu'ils peuvent l'avoir, les deux, mais malgré ça, Rosberg a laissé passer Hamilton alors qu'ils luttent pour le championnat, les deux. Ils luttent pour le championnat, je rappelle. Mais ils savent qu'on n'est qu'au 6e Grand Prix de la saison. Rosberg sait qu'il est en tête du championnat. Rosberg sait qu'il doit tout à Mercedes. Et Hamilton aussi. Hamilton, pareil. Il sait qu'il doit beaucoup de choses à Mercedes. Et donc, il sait que quel est l'intérêt de l'écurie. Et que pour l'instant, l'intérêt de l'écurie prévaut. Et même si Hamilton a pu reprendre tant de points, et que Rosberg, ça doit le faire chier à l'intérieur, même s'il ne le dit pas, mais ça doit vraiment le faire chier à un point monstre, mais il sait aussi que voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. Ça fait partie de la F1 également de faire le jeu de l'écurie lors des premiers Grands Prix. Alors là, si, par contre, si on était lors des derniers Grands Prix de la saison, je doute que Rosberg respecte l'ordre de l'écurie. Parce que là, vraiment, il y a un championnat pilote à jouer. Et ce serait débile de respecter l'ordre, hein, je pense. Voilà. Mais là, on est au 6e Grand Prix et voilà, il faut faire ça. C'est normal. C'est normal. Surtout après ce qui s'est passé en Espagne, je pense que c'était important également de respecter ça. Et Rosberg, il voyait bien qu'il n'était pas du tout dans le rythme et que c'était plus dangereux d'autre chose de bloquer son coéquipier. Voilà, donc différence entre des grands pilotes et deux pilotes complètement ridicules, tout simplement. Et enfin, je veux parler d'un dépassement, le dépassement de Nico Hülkenberg sur son compatriote allemand Nico Rosberg, de Nico. Ça ne s'écrit pas pareil, ceci dit, je crois, les deux prénoms. Enfin bref, ça on s'en fout. Le dépassement lors du dernier tour et lors de la dernière ligne droite. Ça, c'est ce genre de dépassement qui me fait frémir, qui me donne des frissons à chaque fois, en course auto. Et ça s'est passé à Monaco. Et c'est ça qui est le plus beau. C'était pour la sixième place et c'est une sixième place très importante pour Force India qui a donc ramassé des gros points à Monaco, hein, une troisième place, une sixième place et qui se hisse en cinquième place du championnat constructeur. Je pense qu'ils signent direct s'ils finissent la saison cinquième, hein, parce que c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagnant quand on regarde au début de saison les adversaires qu'ils peuvent avoir et le potentiel de développement des uns et des autres. Donc voilà, franchement, Force India, ils apportent des petits développements à chaque fois. Et à Monaco, ça a semblé porter ses fruits. Donc c'est plutôt pas mal, Hülkenberg. Ce qui est bien, c'est que s'il est resté à l'affût jusqu'à la fin du 78e tour. Et c'est ça qui est beau chez des pilotes de F1, c'est garder cette lucidité. La lucidité de rester bien dans le sillage de Rosberg et de bien sortir du dernier virage pour profiter de la moindre erreur. Et Rosberg a commis une petite erreur et voilà, c'est passé pour Hülkenberg. Ce dépassement, en plus d'être important pour Force India, il l'est aussi pour Nico Rosberg et pour la lutte pour le championnat du monde, parce que c'est ce qui a fait la différence pour qu'Hamilton, pour que Rosberg soit dans le viseur d'Hamilton, c'est-à-dire cette différence de 24 points, moins de 25, moins d'une victoire. Alors que si Rosberg était resté devant Hülkenberg, eh bien Rosberg sera à plus de 25 points, je crois, à 26, si je ne me trompe pas. Donc, c'est très important. Très important, je pense, ça, pour la suite du championnat. Et Hamilton doit être content, ça c'est sûr. Et Rosberg doit l'être moins parce que c'est le Grand Prix qu'il a gagné 3 fois de suite. C'est le Grand Prix qu'il a gagné 3 fois de suite. Et il n'y était pas du tout. Il était pas du tout dans le rythme, hein, tout simplement, ce dimanche-là. Quand c'était mouillé en piste, il était vraiment très 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 lent. Plus lent, c'était le plus lent du top 7, tout simplement. Donc qu'il finisse 7ème, c'est plutôt logique finalement, au vu de son rythme. Et quand c'était sec, il était peut-être un peu mieux, mais quand c'était mouillé, il était pas. Et puis il avait eu des problèmes mécaniques aussi, hein. Les Mercedes qui rencontrent des problèmes mécaniques quand même assez fréquemment, même s'il a pas dû abandonner, ça l'a gêné pour prendre des risques. Hamilton en a aussi eu durant ce Grand Prix des problèmes de frein, de température de frein quand il y a eu les restarts après les safety cars, après les safety cars virtuels, voitures de sécurité virtuelles. Donc c'est c'est attention Mercedes. Ça en fait beaucoup. Hamilton a su galvaniser tous les soucis mécaniques. Cette fois c'est Rosberg, mais d'un autre côté voilà, c'est ce que j'avais dit. Sur une saison entière, normalement, ça doit se compenser entre les deux pilotes. Là, ça commence peut-être à se compenser. Mais il n'y a pas que ça. On ne peut pas mettre la performance de Rosberg que sur le dos de ses soucis mécaniques. C'est aussi que, voilà, il n'osait peut-être pas prendre de risques. Il n'a pas su les prendre. Et quand tu prends pas de risques à Monaco et que tu n'arrives pas à toucher la limite ou l'approcher en tout cas, eh ben forcément, tu te retrouves très lent, hein, par rapport aux autres. Et c'est ce qui a fait la différence également. Donc une course très compliquée pour Rosberg à oublier. Il doit rebondir au Canada où il doit montrer que voilà, il se laisse pas abattre par ça et qu'il subit pas la pression d'Hamilton. Parce qu'encore une fois, quand Hamilton se retrouve derrière Rosberg et lui met la pression, généralement Rosberg craque. Donc là, il faut qu'on voie le mental de Rosberg, comment il est. La saison commence à avancer, donc il commence à y avoir un peu plus de tension. Il faudra voir au fil du temps comment ça se passe. Et avantage Rosberg au niveau des points, mais au niveau des saisons précédentes, gros avantage à Hamilton. Et voilà, il faut vraiment suivre la saison jusqu'au bout. Ça va être palpitant, les Ferrari, les Red Bull qui peuvent revenir également et faire les troubles et semer les troubles faites. Peut-être d'autres surprises comme le podium Force India là qu'on a vu. Bref, une saison palpitante avec des belles courses. Hein. Souvent des belles courses cette saison quand même. Alors que le règlement technique a pas tellement changé. Comme quoi, voilà, il faut. C'est bien beau de critiquer la F1, mais ça reste un très beau sport où on peut voir des très belles courses, donc faut pas non plus crier au loup tout le temps. Je pense qu'il y a des choses qui vont mal en F1, et je le dis, mais il y a d'autres choses qui vont bien, et tant mieux, ça reste le sport qu'on aime. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce long podcast, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire, et c'est Monaco, c'est une place particulière, donc podcast un peu particulier et un peu plus long. Mais je suis quand même désolé que ce soit aussi long parce que à écouter, c'est peut-être pas évident d'écouter près de 40 minutes de podcast. J'espère au moins que c'était intéressant pour vous. N'hésitez pas à réagir hein, sur les réseaux sociaux, le Twitter @F1Analyse et la page Facebook d'Analyse F1 que vous trouverez facilement dans la barre de recherche de ce même site. Je vous remercie et à la prochaine pour un prochain podcast. Et d'ici là, hein, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, vivons notre passion. À bientôt. Thank you.
Thank you.